Parce que j'avais eu des nouvelles anciennement, quand il y avait accord dans la fond, donc avant la désagrégation,
ouais.
Puis plus rien, non, pendant des années. Et puis, Abel Chalam m'avait parlé. Et en principe, ce que j'avais dit ce matin prenait, partait d'où les allocutions magistrales avaient terminé, et profitant de leur introduction qui dessinait déjà le cadre de l'essentiel. Et je soulignais que, distinguant adoubement en tant que sacramental, la chevalerie comme vocation et l'ordre de chevalerie comme vocation organisée, on pouvait alors le dessiner comme la perfection de la vocation de chevalerie, c'est-à-dire milieu des vocations analogues qui visent à vivre dans le temps, bien au-delà de ce qu'une vie individuelle peut permettre. Une vie passe vite. Un ordre en puissance, il est immortel. Cela pose immédiatement le fait qu'il y a un sacramental de milice, à part qu'il y a d'autres sacramentaux militaires, à part la bénédiction de l'épée, il y a la messe pour les troupes qui partent en guerre. En Italie, à Venise, ce matin, je n'avais pas eu l'occasion d'ajouter certains détails, à Venise, à Aquileia, plus encore, il y a une messe qu'on appelle la messe de l'épée, dans laquelle un diacre armé assiste à l'évangile, une fois là, c'est très intéressant. Parce que, donc c'est liturgisé à l'intérieur même de la messe, la milice. C'est le souvenir des anciens siècles de guerre, quand dans la lagune de Venise encore, tout était menacé, la République et la ville de Venise n'étaient pas encore surgies, les invasions des barbares avaient coupé la terre ferme, et il y avait cette palude dans laquelle survécut longuement une romanité plus précise. Parce que les barbares n'avaient pas encore la technique, ne dominaient pas encore la technique des assauts par mer. Donc, il y a des sacramentaux militaires. Et au Liban, il faut noter aussi cet autre détail très intéressant. Au Liban, on conférait un réel diaconat militaire. Diaconat militaire au cœur du Moyen-Âge. Il y en a quelques petites traces. Je l'ai repéré dans quelques volumes d'érudition historiographique parce qu'elles ne sont pas présentes maintenant. Même pas dans la mémoire de théologique du clergé. Mais il y a. De tout le temps, la milice, nous le savons, maintenant il est nié. La milice est une voie de sainteté possible. Et ça veut dire que la force peut être la garde de la justice et de la vérité. Tout cela, nous le savons très bien. Et donc, c'est pas pour réfuter des objections, mais on se le rappelle. Le fait qu'il y ait un sacramental d'église suffit à personne, face à un catholique, un prêtre, qui affiche du pacifisme, s'il est de bonne foi pour lui fermer la bouche. La guerre a un milieu spécifique de légitimité et même de privilège, à l'intérieur de la poursuite du bien commun. Donc, utilité de la force. Nous connaissons d'ailleurs, en tant que catholiques, les critères qui régissent tout cela. Après, le péché originel, bien sûr, étant donné la liberté humaine, on peut vouloir le mal. Et pas le vouloir seulement de bonne foi, c'est-à-dire se tromper. On peut choisir le mal. Donc, on peut vouloir le mal au-delà de toute droite persuasion. Et alors, ce qui a l'autorité sociale doit réduire à l'impuissance le mal armé qui se présente. Alors, tout cela, nous le savons, comme nous connaissons d'ailleurs les critères. Bien sûr, la force peut être utilisée selon les critères moraux qui commandent la proportion, etc. Nous connaissons très bien tous ces critères de proportion qui rendent légitime, parce qu'on peut, y avoir, comme nous le savons bien, un usage illégitime de la force quand il y a disproportion entre la menace et la défense, un excès de défense. C'est une force injuste, donc qui a réduit à pure brutalité immorale. Et pour certains, il n'y a pas seulement un droit à la force, mais un devoir à la force. C'est typique, le chef d'État. Le roi a le devoir de la force, parce qu'il est là pour garder le bien pour tout, pour toute sa cité. Il peut renoncer en tant que personne privée à se défendre en main armée, mais il a le devoir, s'il est nécessaire historiquement, de repousser à main armée les menaces sur son peuple. Le chef de la famille, il a pour ses enfants. Donc, il n'y a pas seulement une licéité abstraite, renonçable, mais il y a fonctionnellement un devoir possible de l'utilisation de la force. En particulier, dans le cas d'un ordre de chevalerie, c'est une vocation spécifique, consacrée, bénite par l'Église, En tout cas, c'est un sacramental que tout laïc peut recevoir et transmettre, émettre, et mettre en œuvre. Hein. Donc, il y a la vocation spécifique. Bien sûr, aujourd'hui, tout est bien pire, tout est plus grave. Parce que c'est un milieu qui ne comprend plus aucune vocation. Il n'y a plus de vocation aujourd'hui dans le monde moderne. C'est-à-dire, dans le temps moderne, il y a ceux qui, dans le temps moderne, survivent. Ce qui est survie éternelle, chrétien. Mais le monde moderne est incapable de conférer des vocations, parce qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de but autre que soi-même. Donc, même la dimension du bien commun est de routine, on peut l'affirmer, mais elle est sans fondement. Théoriquement, on ne peut pas fonder à l'intérieur de la pensée moderne même la notion de bien commun. Parce qu'il n'y a qu'une poussière d'individus. Alors, c'est une tâche spécifique, pas seulement pour ceux qui ont des fonctions de garde de l'État, de la cité, mais pour ceux qui ont la vocation légitimement reconnue d'exercer la force pour le bien de la cité. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une reconnaissance, pour ainsi dire, légale. Parce que le but étant légitime, chacun peut choisir le but d'employer moralement sa force au service de la cité, et il a le droit de s'organiser avec d'autres pour choisir cette vocation, si cette vocation est la sienne. Donc on peut choisir moralement, et bien sûr ça peut être illégal, mais était illégal le christianisme en temps de persécution. On n'a pas la superstition de la légalité, cette légalité antichrétienne. Donc c'est un but à poursuivre qu'il y ait accord entre la légalité et la légitimité morale. Mais ça peut y avoir, il peut très bien y avoir une divergence historique, et alors bien sûr on sait bien quoi choisir, c'est-à-dire on choisit la légitimité morale plutôt que la légalité étatique. Donc, légitimité et devoir. On se demande alors à ce moment, quel est l'objet spécifique de la vocation de chevalerie? L'objet spécifique de la vocation de chevalerie, on pourrait définir la vocation de se sanctifier à travers quoi? À travers une voie spécifique, l'utilisation de la force. Comme, là, c'est presque l'objet matériel. Mais l'utilisation droite de la force a comme objet formel la vertu de force. Donc c'est la force matérielle est vraiment la matière dont la vertu est la forme. Mais la force matérielle, c'est vraiment là. Ce qui, comme on verra tout à l'heure, ce qui nous prévient d'un danger spécifique de dénaturation d'une vocation. Et j'avais fait l'exemple ce matin, avant l'exemple de la dénaturation de la vocation des confréries, des bâtisseurs des cathédrales, les constructeurs du Moyen-Âge, hein, qui sont l'ancêtre matériel de la franc-maçonnerie, mais la contradiction formelle de la maçonnerie. Là, il y a une corporation chrétienne, là, il y a une secte antichrétienne. Mais la voie de passage, peut-être, a justement été cet abandon de la matière. Ils ne bâtissaient plus rien, ces loges de la fin du 17e. Hein. Ils ont commencé à introduire des frères acceptés, non, qui étaient des hérétiques en quête de carapace protectrice. Alors il y avait cette magnifique carapace des privilèges de la corporation de bâtisseurs. C'était une sorte de corporation internationale. Donc elle avait presque la force des ordres religieux, qui étaient internationaux, justement. Donc très forte juridiquement, très puissante. Des privilèges tombés en désuétude depuis des siècles, parce que les corporations de bâtisseurs survécurent un peu, mais avec les nouvelles méthodes économiques et constructives de la Renaissance, il n'y avait plus le compagnon bâtisseur, mais il y avait l'ouvrier moderne, malheureusement. Hein. On avait déjà, la Renaissance a une profonde décadence en ce sens, dans tous les sens d'ailleurs. Alors, spécificité, l'utilisation de la force. Force matérielle n'est pas oubliée, donc c'est son corps. Le chevalier offre son corps à la bataille. Le frère de Saint-Dominique offre sa tête. Bien sûr qu'on n'offre jamais son corps seulement, son corps dans la totalité des vertus. Mais la voie spécifique, c'est l'offre de son corps dans la bataille. Et donc, pour ne pas l'oublier, il faut le souligner, parce qu'aujourd'hui, tout conjure à nous faire oublier. Toutes les vocations sont tentées de se dématérialiser. Vraiment, c'est presque une vague de catharisme. On enlève la matière. Il suffit une sorte de perfection, aujourd'hui on dirait presque virtuelle, hein, qui c'est l'opposé d'une conception vertueuse. Non, c'est virtuel, exactement. Et donc on essaye de dématérialiser. Non, restez la paix. La guerre est sans ce sang concret que j'ai reçu de ma mère, ce sang qui est de ma souche, de mon peuple, ce sang que Dieu a pris sur ce sang matériel. Donc il faut jamais l'oublier. Il y a une vocation spécifique, l'offre et l'utilisation de son corps afin qu'avec sa force victorieuse, il serve le bien commun. Et s'il n'exerce pas victorieusement sa force, ou s'il ne se dote pas de sa force, il est infidèle à sa vocation. Vraiment, la force matérielle de réduire en sauvage sur le métro, il faut l'acquérir. Et ce serait une belle chose qu'on puisse dire « heureusement » sur le métro. Et je raconte, heureusement, il y avait un chevalier de Notre-Dame qui a réduit toute la racaille en silence. Hein. Ce serait très beau. Parce que c'est l'exemple de la force. C'est l'exemple de la force chrétienne, non? Avec mesure, oui, mais avec victoire totale. Hein. La mesure n'est pas une force mutilée. Ouais. Non, la mesure est toute la force nécessaire, pas plus, pas moins. Donc, spécificité, l'utilisation de la force, et de cette force qui n'est pas seulement la force musculaire, mais la force qui est la force humaine, donc la force intelligente, qui sait se douer d'instruments, donc la force militaire aussi. Donc, l'utilisation de la force socialement exprimé au service du bien commun. Donc dans la cité, dans le royaume, dans l'empire, dans la chrétienté, dans le monde. Donc voie de sainteté et voie de sanctification qui a un but, comme toute société organisée, et le but pour nous c'est déjà résolu. On n'a pas à l'inventer heureusement, parce que le but est déjà, c'est l'île du Christ roi. Qui dessine, et dans les versions modernes, ils ont enlevé exactement ces couplets. Et on a rendu virtuelle la royauté du Christ. Non, non, c'était une royauté temporelle aussi. Non. Alors, le couplet dit que les chefs des nations te rendent honneur public. On se verra aussi les critères, depuis tout le temps, l'Église, ni quand elle était persécutée, ni quand elle était triomphante, n'a jamais utilisé la force publique, se servir de ça, pour contraindre. On sait bien, on peut avoir un État chrétien, et on sait bien que cet État chrétien, explicitement vu qu'on a, n'oblige pas les non-chrétiens à être chrétiens, à feindre. Hein. Simplement, il peut les obliger à ne pas contredire les normes de la morale et du droit naturel. Et à ne pas porter offense ou agression à l'Église et à la diffusion de l'Évangile. Donc on ne désire pas une situation qui nous concentre de faire des injustices sur le dos des autres. Non, non, non. Toute la justice. Et c'est la meilleure justice pour les autres aussi. Donc, que les chefs des nations te donnent honneur public, que te vénèrent les maîtres, ceux qui enseignent, hein, les juges, ceux qui appliquent la loi. Parce que là aussi, maintenant, désormais, la pourriture des mentalités est telle qu'un juge se croit moralement astreint, même s'il est catholique, à appliquer une loi injuste. Non, il doit la refuser. Il doit la refuser. La Pie XII est formelle, maintenant l'enseignement de l'Église. On ne peut pas coopérer au mal. Alors, le prétexte que la loi de l'État est injuste, mais moi, vous savez, j'ai fait mon boulot, et j'ai dit absolument pas. On fait notre boulot en refusant cette application de la loi injuste, en transgressant la loi. Mais vous êtes tenu à mettre les normes. Et je ne l'aimais pas cette sentence. J'acquitte le d'or en question, si se traite de lui. Non, je l'acquitte. C'est-à-dire, je prononce contre la loi. J'ai tout. Mais vous perdez votre place. C'est possible. Les martyrs ont perdu leur vie. Donc. On ira mendier. Enfin, c'est pas grave. Les lois t'expriment. Or, la loi, étant donné que la loi dans la cité, comme j'avais dit avant, c'est différent qui doit intervenir à l'Église. La loi est la loi pour toute la cité, donc même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est une loi qui a pour base le droit naturel. Ce n'est pas une loi qui positivement ordonne le spirituel. Elle peut l'exprimer, mais elle ne peut pas contraindre, mais cela, on le sait très bien. Mais que la loi soit explicitement chrétienne, n'est pas une injure faite aux non-chrétiens ou une ménomation de leurs droits. Donc, les lois et les arts t'expriment. Les arts, ce n'est pas seulement le monde de l'art sur la base duquel on parle des artistes. Non, les arts, c'est les corporations sociales. On les appelait les arts, au Moyen-Orient. On avait l'art de la laine, ce n'était pas l'art de faire de la belle laine. C'était la corporation de tous ceux qui pratiquaient la laine. C'est un peu le compagnonnage en France. Non? Donc c'est la corporation, art, à ce double sens. La technique, l'artisanat, la corporation, tout cela exprime ce qui avait été fait dans le Moyen-Âge quand on avait converti les arts, c'est-à-dire les corporations. Et chacun avait sa voix spécifique, son assiette spécifique. On parlait aux tisserands en disant que leur sanctification était comme l'ourdi divin qui se mêlait à leur trame humaine. C'est-à-dire, on prenait les métaphores de leur travail pour les paysans comme les paraboles d'Évangile, c'est des paraboles agricoles. Pour les bâtisseurs, l'hymne de dédicace de l'Église. Vous êtes comme des pierres, vous devez laisser frapper parce que sinon vous n'êtes pas adapté à l'édifice. Non? Donc, et alors c'est à vous de bâtir maintenant une. Il y a aussi Saint Paul, non? Une pastorale de milice. Alors, le bouclier de la foi, l'arme de la parole de Dieu. Tout cela sont le reflet d'une catéchèse ad status, selon les vocations. Alors, pour le bâtisseur, pour le paysan, pour le berger, pour le navigateur, pour l'homme d'armes. Hein? Alors, tout cela, et que ton sceptre règne sur les maisons des citoyens. Ça, c'est le couplet presque, on pourrait dire, le couplet politique de l'hymne de la fête du Christ roi. Hein? Donc, le but, on n'a pas, pour nous, on n'a rien à penser, bien sûr, il faudra spécifier comment édifier aujourd'hui, comment faire démarrer un processus de guérison sociale après des siècles de destruction sociale, redonner articulation à la société. C'est comme la réhabilitation d'un muscle qui a été longuement enfermé dans le plâtre. Non? Il existe, il n'est pas mort, mais il faut le réhabiliter. Alors, réhabiliter les corporations sociales, réhabiliter les droits de la famille, les responsabilités, l'usage de la propriété, une économie plus saine, une monnaie plus saine. Donc, cela, oui, on a beaucoup à penser à cela, parce que le combat historique est infiniment complexe. Les principes sont la racine de toute victoire, sont très simples. Mais quand on s'approche du concret, alors commencent les difficultés, et alors toute notre intelligence, notre énergie pour les résoudre. Donc, il y a beaucoup à penser sur le comment y arriver, mais sur où arriver, on sait parfaitement déjà. Alors, le but est clair. La vocation de milice chrétienne est la vocation d'un corps social qui sert le bien commun et la chrétienté à travers une des fonctions que toute société a, la fonction de la répression du mal à travers la force, comme dernière ressource, quand la persuasion a échoué, quand l'intérêt a échoué. Parce que je peux essayer de réduire au bien convertissant, bien, convertir les convertissables. Quelqu'un n'est pas convertissable, mais il peut être enthousiasmable par le bien, la beauté. Alors, on enthousiasme les enthousiasmables. Quelqu'un n'est pas enthousiasmable, mais peut être persuadé. Alors, persuader les persuasibles. Quelqu'un qui n'est pas même capable d'être persuadé. On le persuade au moins à cela qu'il aurait quand même son intérêt à respecter l'ordre. Alors, intéresser les intéressables. Et après avoir converti les convertissables, enthousiasmer les enthousiasmables, persuader les persuasibles, intéresser les intéressables, eh bien, après, on contraint les autres. C'est très simple. On connaît parce que le criminel est celui qui ne peut même pas être intéressé au bien. Non? Ni persuadé, il choisit le mal. Et alors, on le met en prison. On le contraint. Les autres, pour les autres, le levier du bien est intérieur. L'intérêt, l'enthousiasme, la persuasion, le bien spirituel. Pour d'autres, il faut simplement le réduire de l'extérieur au bien, avec la compression de la force. Et étant donné que la force sociale doit être proportionnée au mouvement social, étant donné que la fonction de l'exercice de la force est coextendue à l'histoire, parce que le mal est présent tout le long de l'histoire, c'est bien qu'il y ait une vocation spécifique, une tâche spécifique qui est pour les chefs de tous les corps sociaux et de tous les royaumes, mais une vocation spécifique qui dure dans le temps pour assister les chefs d'État, les rois, hein, à appliquer cela. D'ailleurs, toujours a existé cette force, comme vous l'avez rappelé, justement votre intervention. Depuis toujours, il y a eu, parce qu'aucune société ne peut durer si elle n'a pas la capacité de réduire le mal par la force. Parce que le mal est possible. Non? Mais toutes les sociétés aussi ont eu quelques formes d'institutionnalisation de cette vocation. Toutes les sociétés ont formé leurs guerriers. Et d'une façon parfois très particulière, les tribus indo-européennes qui ont envahi l'Europe, avec d'une façon plus caractéristique, ou au moins plus proche de nous. On a des nouvelles très belles sur la vocation militaire dans le monde pré-chrétien. Par exemple, dans la guerre entre les Roms et les Samnites, les Samnites, avant d'être battus, c'était une très noble civilisation d'ailleurs, hein, le peuple italique pré-romain, quand leur ville est en danger, la dernière bataille a des traits extraordinairement beaux. Parce qu'ils forment dans la ville une cohorte, cors linteata, un corps sacré, qui va faire serment dans le temple de combattre pour la cité. Ils sont habillés de blanc. Donc, il y a vraiment quelque chose comme une corporation de guerriers. Et pas seulement d'une façon exceptionnelle. On connaît le cours sous son ordre militaire à Rome. Comment on formait les soldats, les légionnaires? Donc, il y avait une institutionnalisation. L'Église a converti les chevaliers et puis a fait surgir l'institution des ordres de chevaliers. Dieu a suscité les vocations pour les faire surgir. Donc, à ce moment, dans mon intervention d'avant, j'avais souligné un peu longuement la question de l'élément force et corps dans la vocation des chevaleries. Parce que c'est vrai que la bataille apologétique, aujourd'hui, est une partie de la vocation chevaleresque, parce que les autres ne la combattent pas. On serait très heureux de recevoir les bons manuels pour défaire les erreurs, pour défaire les sectes mondialistes, mais on doit les fabriquer, nous, en réalité. Il y a un temps où il y avait un clergé qui fabriquait cela, et qui avait justement la vocation de... qui payait avec sa pauvreté et son ascèse, de se dédier toute la vie à l'étude, pour nous donner déjà les manuels déjà faits, au lieu de nous contraindre à les fabriquer. C'était très beau. Maintenant, il n'y en a pas. Alors, c'est à nous. Donc, c'est une vocation apologétique, mais n'est pas la spécificité du chevalier. Maintenant, il doit l'apprendre, sinon il serait infidèle à sa vocation, parce qu'il doit défendre la cité, donc toutes les menaces, il doit le faire. Mais sa vocation directe et spécifique est la force. Dans le sens spécifique et concret, qui est l'utilisation, avec la vertu de force, qui est de toutes les vocations, de la force matérielle. Dieu peut le lui épargner. C'est pas un bien qu'il y ait la nécessité de l'utilisation de la force, parce que ça veut dire qu'il y a du crime. Donc c'est pas quelque chose à désirer plus que le bien auquel l'exercice de la force est subordonné. Non, absolument, c'est comme quelqu'un qui aime la bataille plus que la victoire. Non, il est détraqué, dangereux. Non, il faut aimer la bataille autant qu'elle sert à la victoire. Donc c'est pas quelque chose à désirer en soi, mais le spécifique est l'utilisation même de la force matérielle. Bien sûr, et puis il y a tout la force dérivée, la force militaire, la force institutionnelle, donc le combat législatif, très important. Mais à la base, il ne faut pas renoncer à cette base, quitte à laisser tomber un peu dans le flou le caractère spécifique. Et j'avais souligné aujourd'hui, dans l'intervention en italien, justement cela, à mon avis, je crois qu'il soit conseillable, vivement conseillable, pour l'équilibre de la vocation et pour les nécessités de faire face à la menace, que dans l'itinéraire de formation du chevalier, et on peut le faire surtout avec les plus jeunes, il y ait vraiment l'exercice de la force, donc la pratique des arts martiaux, mais même des arts martiaux les plus proches, parce que même l'exercice de l'épée est une très belle art martiale. C'est-à-dire, il y a beaucoup, mais les arts martiaux de combat, tous les arts martiaux de combat, selon les possibilités, bien sûr, parce que chacun de nous est dans sa géole quotidienne, d'entretude, travail. Mais si on peut, bien sûr, un jour, quand vos ordres auront essaimé, vous aurez votre palestre intérieure dans laquelle vous ferez karaté, kendo, vous ferez tout. Mais c'est bien, c'est la vocation spécifique du chevalier. C'est différent. Il y a bien sûr l'ascèse du corps, l'ascèse du corps d'un bénédictin. Vous pensez l'ascèse même corporelle qui est incluse dans la liturgie traditionnelle. La génuflexion, c'est la cesse du corps aussi. Un moine qui répète cela pour toute la vie, c'est 1000 génuflexions par semaine qu'il fait, les inclinations, etc. C'est à sa façon, mais pour lui, ce n'est pas son spécifique. Tandis que pour le guerrier, la force est son spécifique. Donc, que dans l'itinéraire, et aussi, si on peut, selon les forces et les temps et les ressources que Dieu nous donne, à part la formation physique au combat, aussi l'intérêt à promouvoir. Et qui d'ailleurs est très facile à réveiller dans quelqu'un qui a une vocation de milice pour ceux qui ont affaire à la guerre. L'histoire de l'architecture militaire, elle est très enseigne beaucoup. Il n'y a pas le temps maintenant, mais il y a un livre d'histoire de l'architecture militaire fait par quelqu'un qui avait vraiment une vocation militaire. Et il parle de comment, à travers l'histoire de la fortification militaire, on dessine vraiment la conception politique sous-jacente. Et donc la conception politique qui peut engendrer, il y a une proportion directe entre les conceptions. Il y a, donc l'histoire militaire, à part l'histoire de l'architecture militaire, il y a des sièges qui sont des chefs-d'œuvre intellectuels. Le siège de Havre, par exemple. Malheureusement, il était contre les Gaulois. Mais c'est une œuvre d'ingénie unique quand César arrive à Havre. Il a trop peu de force, il a 2 légions seulement. Trop peu de force pour prendre la ville. Et d'ailleurs, derrière lui, il y avait une autre armée gauloise qui arrivait, de Comines. Comment ? Quoi faire ? Bien sûr. Dans d'autres, il a très bien manœuvré avec 2 tranchées et en déplaçant. Mais dans celle-là, c'est une manœuvre d'ingénieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas la force pour prendre la ville. Il était plein d'armes. Même si quelqu'un lui ouvrait la porte, il aurait dû hésiter à y entrer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les murs. Alors, il est défendu par les agresseurs, par les murs même, desquels il prend les autres. Et il est réduit à la panique. Donc, il conquête la ligne de séparation. Conceptuellement, c'est un chef-d'œuvre, quelque chose d'analogue. C'est passé pendant la guerre du Vietnam. Malheureusement, les Américains ont gagné. Mais pas ont gagné, c'est-à-dire c'est trop. Dans le sens que devaient gagner les Français, il y a bien fou. Voilà. Pas dans le sens que devaient gagner les communistes. Il y a une bataille dans laquelle l'offensive du Tet. Jab, qui était un génie tactique au moins, pas stratégique, mais qu'il dessine des anneaux de troupes qu'il infiltre, des anneaux concentriques de troupes, qui s'infiltrent parmi les forces américaines. Et l'ordre de bataille est que tous les groupes, au moment de la bataille, commencent à se serrer. Une conception brutale de la vie humaine, parce qu'il conduisait toutes ses forces au massacre, par ses siens même, hein. Mais il aurait mâché les Américains dedans. Hein. Mais c'est génial tactiquement, bien que brutal, inhumain, un chevalier n'aurait pas fait ça. Quelle a été la ligne de défense ? Là aussi, une ligne géniale, mais il n'y avait pas un Américain génial. C'est un ordinateur qui a décidé la ligne. Ils sont transmis les données à Washington, des militaires sont arrivés les données d'ordinateur. Et l'ordinateur a été, le siège a été brisé par ligne de tangente. Chaque force militaire américaine, sûre de ne pas frapper les siens, hein, au contraire exact, a commencé à ouvrir le siège par ligne divergente, par ligne parallèle. C'est-à-dire, une moitié s'ouvre comme ça et l'autre comme ça. Et ils ont ouvert tous les anneaux du siège. Non? S'il y avait un général, il aurait fallu le vénérer comme un héros. Non, c'est vraiment génial aussi la réponse. C'était un ordinateur, c'était un saut parfait qui a décidé tout ça. En tout cas, l'exercice de la force, l'amour pour les choses de guerre, l'histoire de la guerre, surtout notre guerre du Moyen-Âge. Donc, le château. Mais le château a un traité de théologie en pierre. Si on prend le château avec son église, avec les murs, avec les maisons consacrées aux métiers, aux fonctions, vraiment c'est un traité de politique. Donc l'amour pour ceux qui ont affaire à votre vocation. Et bien sûr, demain, c'est une allusion que je fais, mais demain rien n'empêche qu'aux missions humanitaires, parce que la chevalerie est née avec une mission de miséricorde, et l'arme est miséricorde armée pour un chevalier. Hein. Donc, mission de miséricorde, rien n'empêche que demain, quand les ordres de chevalerie auront force suffisante, mais il ne faut pas des grandes forces, qu'à côté des missions de solidarité, hein, on puisse demander la permission de protéger en arme ces missions, mais nous-mêmes. Hein. Ce serait peut-être la voie pour conquérir des fragments d'extraterritorialité, ou même de les conquérir, comme paiement du bienfait. Hein. Oui, 10 mètres carrés, mais souverain, extraterritorial. On donne le passeport, on frappe monnaie. Mais surtout, on est vraiment maître chez soi. Hein. Et alors, ça pourrait être même l'occasion de formation pour beaucoup. Mais ça, c'est des thèmes qu'il faudrait, trop sommairement sont dit comme ça. Hein. Mais on pourrait penser à cela. C'est-à-dire une sorte de légion étrangère chrétienne. Oui. Qu'est-ce que c'est un ordre de chevalerie ? C'est cela. Simplement, la Légion étrangère est un organe laïcisé de l'État antichrétien moderne. Mais en soi, c'est un lieu de vocation analogue, ou un lieu de refuge pour criminels analogues, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelques reflets de l'indépendance des anciens ordres militaires du Moyen-Âge. Donc, habiliter son corps à la bataille, sa tête à la bataille. comme dimension spécifique de la cesse du chevalier. Qui connaît la vocation chevaleresque aussi, qui connaît des dangers spécifiques, bien sûr. Pas seulement le danger de se dématérialiser, de devenir une sorte de combat très virtuel dans lequel on ne rencontre jamais un ennemi, ou un combat toujours perdant parce qu'il n'y a pas d'ennemis, on les embrasse tous, tout est bien, tout sont bons. Donc, dissolution du combat, hein, il n'y a plus. Non, pas même. Déjà, la matérialité du combat a disparu, mais en plus, disparaît même le semblant, le combat d'idées, la bataille des idées. Hein. Il y a aussi, bien sûr, la tentation d'une utilisation erronée de la force, mais cela, il y a dans toutes les vocations. Dans une vocation doctrinale, ce danger a son équivalent dans le fait de n'être pas exact dans les coups qu'on met, dans l'exagération. Et c'est comme pour un chevalier donner des coups de plat. Non, il faut donner des coups de taille, de fil exact. Comme Saint Thomas, hein, Saint Thomas d'Aquin, qui descendant d'une grande famille de guerriers, pour partie de mère Franck et pour partie de père Lombard, chassait les erreurs comme des ennemis, chacun jusqu'à l'heure de fête, avec une exactitude, pas un mot en plus. Pas comme certains sermons très enthousiastes pour lesquels ils mettent dans le même sac tout. Non, exact. C'est un honneur de reconnaître la partie du bien qu'il y a même dans nos ennemis. Donc c'est l'exactitude et l'honneur du guerrier. D'ailleurs, Saint Augustin, quand il réproche aux paysans d'avoir trahi, il ne leur dit pas, vous méritez la défaite parce que vous étiez une bande de salopards, etc. Non, il lui dit, vous qui avez trahi les vertus que vous connaissiez, vous calomniez les chrétiens parce qu'ils pratiquent la miséricorde. Mais vous chantez César justement parce qu'il était généreux avec les vaincus. Donc, avec beaucoup de soin de respecter la totalité de la vérité et du bien autour de nous. Parce que la tentation est celle-là. De sortir. Non, il n'y a pas de gloire dans le fait de dire plus de vérité. Parce que plus de vérité de la vérité est une erreur. Non, il n'y a pas de gloire dans l'erreur. Plus de force que la force est violence. Il n'y a pas de gloire à cela. Et ensuite, c'est un mal moral. Donc, les dangers spécifiques. Et ce matin, avant, c'est-à-dire, j'avais ajouté aussi, c'est une phrase tirée d'un écrivain. Oui, autour de nous, il y a toujours l'abîme, au fond duquel se tient immobile le serpent qui serre entre ses dents le cœur de l'homme. Ce n'est pas un danger, oui, une bataille. Non, c'est la chute d'une vocation, presque la chute d'un astre. La chute d'une civilisation, c'est bien pire, quand tout un monde chrétien chute. Mais une vocation analogue, la ruine d'une âme est analogue à la ruine d'un royaume, non, c'est terrible. C'est pas un échec de peu de choses, hein, trahir une vocation. Donc, exactitude, force, droiture, totalité de la force, et ensuite, ce qui est plus, cette dimension qui nous porte à aimer l'objet spécifique, d'amour même naturel, à aimer l'objet spécifique de notre vocation, la force et la vertu de force, doit tenir compte aujourd'hui du fait que la logistique de la bataille s'est énormément alourdie. Parce que il y a eu un temps dans lequel un chevalier, un ordre de chevalerie, était inclus dans un univers chrétien, dans lequel un ensemble de vocations spécifiques concourait à nourrir le corps social, à nourrir et à la protéger contre la défaite de la maladie et de la mort. Mais, à part la destruction sociale de laquelle on a parlé, il faut dire que maintenant, il n'y a pas seulement on n'a pas cette pluralité de vocations qui concourent au bien commun, mais ceux qui ont la première vocation, les chefs des nations, donc l'architecture politique de nos pays, est gérée directement par nos ennemis. Donc nous héritons une tâche qui est bien plus large. Parce que, c'est comme pendant un incendie, c'est pas seulement, la maison brûle, bien, je ne suis pas pompier, donc je la laisse brûler. Et si c'est ma maison, c'est un peu plus délicat. Je ne suis pas pompier, mais j'essaie de... Donc je ne suis pas chef d'État, mais je dois réinventer, pour la distribuer, la science politique. Je ne suis pas un théologien, mais je dois faire du catéchisme, sinon... Je rappelle un compagnon de lycée à Milan, un jeune lycéen, j'ai connu quand j'ai recruté un peu de jeunes à Milan, j'étais à l'université, et
Pierre Julien est devenu un très bon chrétien, un très bon militant chrétien, mais n'était pas hostile au christianisme, parce qu'il ne le connaissait, personne ne lui avait parlé, et, malgré qu'il y avait un professeur de religion, hein, et qu'il y avait sa petite copine avec qui il passait les fins de semaine. J'ai dit, écoute, mais tu sais que c'est défendu, tu sais qu'il y a des commandements les prohibent. Il pensait que c'était une plaisanterie. Non, non, qu'est-ce que tu m'as dit? Le professeur de religion ne m'a rien dit. Donc il faut devenir un nouveau catéchiste, et tout le reste, et on poursuivra. Humaine, qui est une partie de l'agression. Donc, c'est là vraiment le fait qu'on ne doit pas craindre de commencer à le déclarer en public. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à le faire très ouvertement en disant cet état, dans des conférences avec qui il avait la police, les informateurs et tout, c'est-à-dire publiquement, notre état, après les lois sur l'avortement, est un état d'illégitimité radicale. Nous avons déjà la racine essentielle, le noyau essentiel du droit d'abattre ces états avec une insurrection même armée. Alors ça dit bien, vous risquez la prison. Non, ça, selon la doctrine de saint Thomas, exige, malheureusement nous ne sommes pas d'accord là, qu'il y ait les moyens suffisants, que on ait la certitude morale de gagner, et que dans cette œuvre de justice quand même, on n'engendre pas plus de mots, des mots auxquels on porte remède. Mais ces distinctions faites, on est déjà dans l'état des choses qui légitiment une insurrection armée. C'est-à-dire un pouvoir qui lèse dans une proportion hors tout limite un bien fondamental, et il le lèse bien plus des prévisions de lésions qu'il y avait au Moyen-Âge, parce que la lésion des lois comme celle de l'avortement n'est pas seulement une lésion de fait, comme une tyrannie historique. C'est l'affirmation qui nous dépouille totalement des droits, parce qu'il affirme que la source de tout droit est l'État. Donc nous sommes déjà morts. Simplement, nous vivons l'intervalle entre la sentence de mort et l'exécution. Mais juridiquement, on est déjà. Alors, avec cette loi, l'agression et le coup qu'on a porté contre le bien commun est déjà d'une dimension énorme. Alors, quels sont les critères? Il y a les moyens pacifiques pour le faire. Oui, s'il y a peut-être, oui, 20 ans, 30 ans, etc. Mais déjà, l'État est un état d'illégitimité totale. Parce que l'obligation morale de défendre les victimes innocentes, elle est bien présente, elles sont tuées tous les jours, ces victimes. Hein. Donc, on a déjà le droit de l'insurrection armée dans nos villes, oui, en Italie, contre l'État italien. Mais c'est difficile d'arrêter un pape pour cela ou de dire que saint Thomas mériterait un procès. Et quand on fait une déclaration sans provocation inutile, mais non, ça c'est vrai. Simplement, il n'y a pas encore tous les éléments qui légitiment la mise en exécution. Il faut savoir que nous vivons dans un état d'illégitimité radicale. Qu'un jour nous processerons ces juges, ces parlements, le parti transversal des assassins qui est au Parlement. Ils seront processés, oui, il faudra les processer. Donc, nous ne sommes pas une partie d'un front qui mène cette bonne bataille ailleurs. Aujourd'hui, le laïc qui a une vocation chevaleresque assume la tâche du bien commun dans son aspect, son armure temporelle, avec un poids écrasant. C'est un peu ce que, dans la conception du chevalier de Notre-Dame, comme vous l'avez dessiné ce matin, la prévision qu'au début, vous aviez fait des sections. Dans les sections contre les sectes, une pour l'école, une pour l'économie. Exactement. Parce que jadis, quelqu'un pensait déjà, il y avait une économie chrétienne, plus ou moins. D'autres y pensaient, on pouvait rectifier. Pour l'école, il y avait les ordres religieux, il y avait l'Église, il y avait une tradition culturelle héritée. Hein? Et maintenant, c'est l'ordre de chevalerie qui doit, au contraire, il faut prévoir la lutte contre les sectes, la lutte contre la désinformation politique et diplomatique, la lutte contre l'OTAN, contre l'UNESCO, contre l'ONU, contre les industriels du spectacle qui poussent à cette guerre contre la jeunesse de nos nations, ou les désagrégés. Non? Donc, le front est très ample, en positif et en négatif. Le front des ennemis et le front des tâches à prévoir. Parce qu'il implique pas seulement le fait des ennemis à surveiller, des mouvances culturelles, de leur approche. Mais il s'agit de prévoir une bataille qui implique les institutions, et pas seulement les institutions nationales, mais les institutions internationales. Mais là aussi, j'ai dit, cet après-midi au début, dans mon intervention italienne, j'avais dit, mais même un petit groupe faut bien formé peut réussir à obtenir des résultats très importants. J'avais fait l'exemple de comment on a stoppé, il y a quatre mois, on a stoppé la négociation de ce traité économique international qui aurait été une aggravation énorme du traité mondial sur le commerce qui est déjà en train de ravager le continent entier sous prétexte du libre-échange. Parce que c'est, dans ce traité, on était en train de négocier un statut de multinational tel qu'il les aurait posés au-dessus du droit des pays dans lesquels ils les opéraient. Donc, les pays ne pouvaient plus se défendre, ni avec des moyens économiques, ni avec des moyens juridiques. Donc, un désastre total. Parce que les multinationales ont, du fait d'être présentes sur plusieurs marchés, la possibilité, en réalité, de mener une politique monétaire qui peut être pire qu'une guerre. Une politique monétaire autonome. Et donc à détruire les bases mêmes de toute possibilité de renaissance ou de redressement. Bien, ce sont des petits groupes marxistes, malheureusement. Ces marxistes un peu plus confus, heureusement, que les autres, qui n'ont pas encore été récupérés intégralement par le libéralisme réel, le frère jumeau du socialisme réel, d'ailleurs, et qui sont parfois, sur certaines questions, ils disent matériellement des choses justes. Alors, c'est un groupe d'études assez bien formé. Tous les trois ont base à Paris, entre autres, mais avec des ramifications internationales. Un groupe d'études bien formé, donc au niveau même, pas nécessairement, mais au niveau de quelques chercheurs d'université, en tout cas des hommes un peu compétents, qui ramassaient et drainaient et suivaient les documents de la préparation, parce qu'ils essayaient de les approuver, comme ont approuvé les traités de Maastricht ou d'Amsterdam. Personne n'a rien su de ces traités, aucun parlement les a négociés. Ils ont été négociés généralement entre le gouverneur et la banque centrale pour être signés seulement en cachette, et puis présentés avec des référendums truqués, avec des médias d'opinion drogués, non, et tout ce monde politique de victimes de chantage ou de potentielles victimes qui couraient à l'approbation, qui marchaient, qui couraient comme des chevaux drogués, vraiment dans les hippodromes. Et bien, ces trois groupes, drainant des informations, les faisant sortir, faisant arriver de la documentation, relassant vers certains médias, ils ont fait bouillir le milieu, hein, ils ont stoppé la négociation. Et ils ont dit, bien clairement déclaré, il y avait un article qui peut donner quelques éléments, il y a les adresses de ces trois groupes, sur, si je ne me trompe pas, ça pourrait être le monde diplomatique de janvier ou de février, en tout cas, on pourrait les suivre. On trouve parfois des bonnes nouvelles dans la presse des adversaires. Hein. Donc il y a certaines données à suivre. Le cas mériterait d'être étudié, techniquement, comme cas dans lequel un petit groupe techniquement organisé, qui ne disposait d'autre que d'instruments d'opinion, donc des documents sur lesquels réfléchir, élaborer des réponses, faire des dossiers, preuves à l'appui, et les communiquer à des groupes d'entrepreneurs, à des forces sociales, etc. Donc ça mériterait d'être étudié. Alors, bien qu'on ait peu de force, la totalité de front n'est pas indomptable. On peut, avec un petit groupe, hiérarchisant les objectifs. Nous avons, c'est comme des soldats qui ont désormais très peu de flèches. Il suffit de bien les utiliser. Le chevalier cuirassé. Oui, mais on attend qu'un geste imprudent découvre la couverture de l'épaule du tronc, et là, on jette la seule flèche qui nous restait. C'est-à-dire, bien utiliser les armes, et les armes sont nos forces, nos compétences, nos modestes forces, nos modestes compétences, mais on peut faire beaucoup. C'est-à-dire, le travail associé, donc motivé, et qui est plus motivé d'un chevalier chrétien, en théorie et en pratique, doit seulement s'outiller pour pouvoir le faire, peut avoir des résultats énormes, surtout parce que tous les autres centres d'élaboration d'opinion sont en train de se liquifier. Il n'y a plus que les grandes agences de presse qui fabriquent opinion. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Donc il suffit, en concurrence, de faire paraître quelques bons avis, bien documentés, dans des bonnes mains, ou s'ils ne sont pas bonnes, en tout cas,
des mains qui pourraient avoir intérêt, voilà, si on intéressait les intéressables, non, intérêt à jouer les rôles. Les députés sont toujours en quête avec bonne cause à trahir. Non, ils dans la matière. C'est leur métier. Donc, ils font mine de combattre. Eh bien, mais ils prononcent certaines vérités. Hein. Voilà. Donc, on peut faire quelque chose. Bien qu'on ne soit pas nous-mêmes à la hauteur de la totalité du but et de la totalité de la menace. Oui, oui. En positif, qu'est-ce qu'on peut faire comme corps organisé? La vocation chevaleresque, a la force comme élément caractérisant, et le temporel comme argument de cadre. Donc, c'est la force dans l'ordre du temporel. Et donc, c'est une vocation politique. Ça implique toute la réflexion sur comment guérir la société actuelle dans ses articulations naturelles du bien commun. Donc, comment guérir, redonner vitalité organique aux corps sociaux, redonner force et droit aux familles, les écoles privées, aider les États à reconquérir ou à ne plus rien vendre de leur souveraineté, essayer toutes les fissures dans le bloc qui puissent être exploitées dans le sens d'un processus inverse. On va vers la destruction des nations, des souverainetés, et tous ceux donc qui récupèrent un peu de souveraineté et un peu d'identité nationale, le protéger, hein, avec tous les arguments qu'on a dit, c'est-à-dire le bien moral, le bien esthétique, le bien rationnel, le bien économique, et la force, mais malheureusement non, pas la force pour contraindre nos pays à marcher bien pour le moment. Et donc aussi, en négatif, donc en positif, guérir le corps social, là c'est une partie proprement de la vocation chevaleresque. C'est plus proche à son donnée spécifique que non les œuvres de miséricorde indirectes, donc les souffrances, c'est bien, c'est juste. Mais la miséricorde politique, c'est-à-dire faire la cité et combattre les ennemis de la cité dans ce que l'ordre politique a de caractéristiques, donc l'armure de ses lois et de ses institutions. Et ensuite, la guerre. Voilà, là, on est directement dans la vocation. Mais dans ce combat, un combat qu'on hérite grâce à l'élargissement des fronts, là, le combat contre les loges, les lobbies, les sectes, et j'avais parlé un peu plus longuement aujourd'hui du combat contre l'usure. L'usure, et donc le combat pour réacquérir la souveraineté monétaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal à qui restituer cette souveraineté, parce que les États ont déjà renoncé à la souveraineté monétaire. Si on pense que le régime des banques centrales est déjà une renonciation radicale à la souveraineté monétaire. Les banques centrales, c'est peu de gens qui pensent à cette donnée. Les banques centrales ne sont pas des institutions publiques. Ce sont des sociétés par action, des spéculateurs privés. Et quand on les dit la première fois, ils tombent. Mais comment? La banque d'Italie, il y a la banque. Non, la banque d'Italie est une société par action, comme la banque de France, comme la banque d'Angleterre, qui est décorée avec des mots de fonction publique et d'utilité publique. Mais là, des actionnaires qui sont d'autres banques et d'autres institutions, qui ont reçu, achetant des députés vraisemblablement, qui ont reçu le pouvoir de frapper monnaie, et frappant monnaie au coup d'impression, donc avec un modeste investissement, comme tout bon faussaire, papier, hante, hein, ils vous la prêtent hein, comme de l'argent anglais, hein, ils vous demandent aussi les intérêts. Ils écrivent, donc le coup de papier, je ne sais pas, 1000 francs, eh bien, c'est un certain coût, quelques livres, le typographe peut vous le dire, le papier, d'accord, mais ils écrivent 1000 francs, ils vous le prêtent comme 1000 francs, et si vous n'avez pas à le rendre, hein, vous prenez la maison, c'est-à-dire des biens réels, hein, pour des symboles monétaires de coût nul, qu'on vous endette en vous les prêtant, comme s'ils étaient couverts de biens réels. Là, c'est vraiment la plus grande tricherie de tout le temps. Le petit usurier qui raquette un magasin, ça c'est de l'amateurisme, c'est un enfant de cœur. La vraie usure aujourd'hui, c'est les banques centrales. Et l'euro multiplie tout cela à la énième puissance, parce qu'il a un statut de souveraineté qui dépasse la souveraineté des pays. à tout un secteur, parce qu'à la fin du Moyen-Âge, les ordres religieux ont libéré l'Europe de l'usure. C'est un chapitre qui est peu étudié. Mais sans l'œuvre qui a été commencée par des saints, Saint Antonin de Florence, le bienheureux Bernardin de Feltre, d'autres, et puis les ordres qui ont ouvert les petites caisses populaires sur gage, c'est-à-dire ils ont libéré de l'usure. On n'aurait pas eu ni la contre-réforme, dans son aspect matériel, bien sûr, Dieu peut faire tout même sans argent. Mais vous pensez que ça peut coûter la propagande, les propagandes filles, l'émission? Et on n'aurait pas eu la victoire sur l'islam pendant des siècles. C'est ces banques qui ont été fondées, soit pour libérer de l'usure, soit pour procurer, avec un petit intérêt dénoncé, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on dépose là pour financer la poisa, qu'on a pu réunir les fleuves d'argent qui ont servi à nourrir les armées chrétiennes au coin de l'Europe. Il faut le savoir. Donc c'est un aspect du réalisme de penser même en ces termes économiques. Parce que la chrétienté est histoire, est chair historique, donc elle a besoin même d'avoir des bases matérielles saines. Alors, la lutte contre les sectes, contre l'usure, ils sont liés. Remarquez, le chemin de la révolution, le chemin de la révolution a toujours passé ces mêmes étapes. Où elles arrivaient à nouveau l'usure. Ils fermaient les petites caisses populaires créées par les religieux, ils les dépouillaient et ils les fermaient. Avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui. J'ai trouvé des documents des luministes du XVIIIe siècle, moitié du XVIIIe siècle, en Toscane, qui demandaient la fermeture des caisses de prêts sur gage pour les plus pauvres, avec techniquement les mêmes paroles qu'on utilise maintenant pour la circulation sans entrave des monnaies dans le monde, etc. C'est-à-dire pour ouvrir la route de l'usure. On a employé quelques siècles pour gagner cette bataille. À partir de la Révolution française, la bataille a été renversée et maintenant on disparaît. Vous pensez qu'en Italie, par exemple, la législation bancaire a fermé toutes les caisses d'épargne qui étaient sans but lucratif, les a obligées à devenir des sociétés lucratives. Avant, statutairement, ils étaient obligés de dépenser en bienfaits sociaux leurs bénéfices. Maintenant, ils sont obligés à se partager en tant que bénéfices. Donc, ça, c'est une partie de la guerre. Il faut l'étudier à nouveau. Les théologiens de la Renaissance avaient étudié comment libérer l'Italie et l'Europe de l'usure. Ils ont trouvé les solutions. Il y a des bulles pontificales très belles sur l'argument presque totalement inconnu. Donc, apprendre du passé, comme disait Monseigneur Henri de Lassus dans le problème de l'heure présente, faut tirer les leçons. Et Saint Thomas d'ailleurs le disait dans De Regimine Principum, la mémoire est un constitutif de l'art politique, c'est-à-dire tirer les leçons de l'histoire, quand il dit au début du premier livre, je crois, qu'il dit, nous tirons nos enseignements de l'histoire des peuples, et de l'enseignement de l'Église, mais de l'histoire des peuples. Hein. Alors, cette chair historique de nos pays doit être l'instrument pour lequel nous apprenons. D'ailleurs, quand on fait les médecins, quand nous allons chez les médecins, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait raconter, donc il nous fait faire l'histoire. Et quand ça commence, l'autre jour, vous savez, après ce dîner, et puis ici, là, et comment? Il nous fait raconter, voilà, l'histoire de nos mots, pour apprendre, pour gagner. Donc, combattre sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan institutionnel, et bien sûr, à part la gangrène maçonnique, la gangrène talmudique, juive talmudique, là aussi, il faut recommencer avec toute l'intelligence du combat. Pas simplement désirer de tomber sous la loi des sorts, car non, il faut le faire mieux. Hein. C'est-à-dire, faire bien la bataille. Parce que c'est une bataille à faire. Parce que le plus haut magistère de barbarie aujourd'hui vient de la catalogique. Alors, il ne faut pas désirer de faire des injustices contre les juifs, non. Mais d'exiger de la justice envers nous. Cela, oui. Justice naturelle, qui ne se convertissent pas dans des problèmes. Donc c'est un front à garder, à combattre avec intelligence, parce qu'on ne peut pas donner la faute à l'ennemi si nous perdons. Hein. J'ai perdu parce que l'ennemi m'a trahi. Bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous révéler ses plans de bataille? Donc si nous perdons, c'est notre faute. Voilà. Donc reprendre tous ces fronts de combat, ça c'est une tâche qui appartient typiquement à une vocation de chevalerie. Parce que tout est contenu dans l'architecture de la cité. Or le chevalier a comme tâche de combattre pour le salut temporel de la cité contre ses agressions. Aujourd'hui, les agressions sont énormément élargies et les défenseurs sont énormément éclaircis. C'est-à-dire, il y a très peu. Et alors ça revient au légionnaire, au bon chevalier, comme l'exemple de ce légionnaire qu'on a trouvé hors de Pompéi. Et là, c'est, on peut comprendre alors sur quelle valeur et quelle formation ont formé ces légions. Parce qu'on a trouvé, face aux portes de la ville, le poste de garde, on a trouvé le légionnaire qui était tombé à son poste. Quelqu'un avait oublié de le relever de la garde parce qu'il y avait une blessure. Il est tombé. Pas tombé en fuyant. Abattu avec sa main sur l'épée. Bon, dans la cendre. Donc, et alors c'est à lui de garder la ville, bien sûr, évitant si possible les cendres et la pile des volcans. Mais, si les défenseurs sont disparus, alors les tâches sont aux défenseurs survivants. Et le défenseur survivant est le chevalier, c'est-à-dire l'homme de la guerre. Il n'est pas seulement une guerre physique, une guerre musculaire, il n'est pas seulement une guerre militaire, c'est une guerre politique générale. Et la cité politique est la base, la forme, comme disait Pie XII, de la forme qu'on donne à nos cités dépend, de la forme institutionnelle qu'on donne à nos nations, dépend le salut des âmes. Donc, c'est une tâche qui n'a pas d'échappatoire, si quelqu'un a cette vocation. Comme j'ai dit plusieurs fois avant, ce n'est pas une vocation obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'imposer avec un appel humain. Dans les mêmes conditions, Saint Benoît a eu la vocation de monachisme. Il a abandonné Rome, qui était victime d'agressions semblables, des agrégations sociales, culturelles, juridiques, militaires, morales. Il a eu la vocation d'aller parmi les rochers de la Mentorella, puis des Subiaco, puis des Cassino. Mais si quelqu'un a une vocation de milice, alors il doit faire comme Ezius, il doit faire comme Stilicho, comme le comte Boniface dans le nord de l'Afrique. Là sont vraiment des exemples extraordinaires à étudier, parce que c'était des hommes de guerre. Ezius qui mobilite ses propres paysans, ses bucellari, on l'appelle comme ça parce que c'est lui-même qui lui donnait la bucella, le pain. Donc c'est pagnottari, on dirait. Ces bucellari pour défendre contre les derniers assauts Rome avant que Rome soit submergée. Et là, les dernières grandes victoires, Ezius, un barbare, Stilicho, qui était des souches vandales, aussi, c'est un des derniers grands généraux chrétiens de la Rome antique. Et si on pense au nord de l'Afrique, on a des exemples de condottiers extraordinaires. Il y a le comte Boniface qui était ami de saint Augustin et qui a combattu les dernières batailles contre les Vandales en Afrique et qui pendant ses campagnes militaires correspondait avec saint Augustin en méditant sur le Saint-Esprit, sur la possession, sur le traité de Trinitate de saint Augustin. Et avec des guerriers semblables, il en suffirait peu pour le faire. Donc, alors la totalité du front, l'histoire de nos héros, bien sûr. Les cibles, les hiérarchiser les cibles pour ce qu'on veut. Alors, les petites cibles peuvent être très différentes. Les grandes cibles géopolitiques sont communes. Pourquoi ? Parce que déjà, les mêmes ennemis sont en train de gouverner le monde. Alors, il peut y avoir une sélection tactique différente des objectifs à la base. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'importance des cibles, des objectifs, alors là, ils sont attaqués dans tout le monde par les mêmes forces. Ce qui est une prémisse de collaboration entre vous. La même bataille qui est combattue dans un seul pays devient bien plus efficace s'il est combattu dans trois, avec des moyens d'opinion même très peu, très bas. Parce que l'effet, dans un monde où tout est devenu virtuel, un peu de réalité multiplie pour 100 ces virtualités de communication. Donc il y a beaucoup qu'on peut faire. Et donc, cet ensemble qui représente aujourd'hui la richesse et le poids d'une vocation militaire, on peut l'examiner dans ses conditions de vitalité. Quand est-ce qu'elle est vitale, un organisme ? Vitale, donc, capable d'exister utilement dans l'histoire chrétienne, pour ce qui nous regarde. Or, les conditions de vitalité de chaque organisme, communes à tous les organismes, sont l'autonomie du but, vers le but, la capacité de se mouvoir au but, donc d'être adéquat à la persécution du but, atteindre le but, unité d'autorité, unité de loi, communauté de biens utilisés, unité de langage, d'enseigne, comme dit Saint-Thomas. Il faut une certaine unité même de symbole. C'est une partie de l'unité de langage, l'unité des enseignes. C'est comme le langage d'un groupe. Hein. Et, mais surtout, voilà, surtout le fait être, le critère de vitalité, c'est la capacité de contribuer au fait d'atteindre le but. C'est là où on peut se mesurer. La chrétienté agressée, presque en ruine. La menace est large. Quelle est notre proportion à la menace? Alors on mesure qu'on a très peu de force. Mais étant donné que on ne maîtrise pas la providence, si la providence nous fait surgir avec cette vocation, elle donnera de l'efficacité à notre peu de force. Où elle ajoutera des forces? Donc l'important c'est de se mesurer continuellement. Sinon on risque, c'est un autre danger, de penser que n'ayant pas plus de force et plus d'hommes, nous avons fait tout le possible. Non. Non. C'est-à-dire, la bataille est déjà combattue. Non, non. Nous sommes en déficit. Nous devons tendre toujours à gagner la bataille. Et alors, à dépasser l'insuffisance d'hommes, l'insuffisance de force, l'insuffisance de compétences. Et, pour dire à la fin, comme dit l'Évangile, pour dire simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu donnera fécondité. D'ailleurs, la devise de Saint Jean d'Arc, le soldat combat, Dieu donne la victoire. Pour nous poursuivre, c'est certain que si nous poursuivons bien, nous trouverons les aides opportunes. J'avais développé ensuite toute une partie, jusqu'à quelle heure? Une demi-heure, un quart d'heure? Voilà. Alors, j'avais développé aussi une partie de l'analogie. On peut de l'analogie entre la vitalité, par exemple d'une société, mais par exemple d'un ordre militaire, et la vitalité d'un château. Un château n'est pas un ensemble de murs. Le château est une micro-société dans laquelle toutes les fonctions suffisantes sont données. C'est comme une abbaye bénédictine presque. Où il y avait le forgeron, le menuisier, le maçon, il y avait les gardes de l'abbaye, donc un noyau de petite armée à eux, quand ils n'étaient pas sous la protection d'un feudataire assez fort. Donc, un château en soi, s'il s'est réduit seulement à l'enceinte de ses murs, c'est techniquement la définition d'un château assiégé. Réduit à ses murs. Un château est vital s'il peut, sur le fief duquel il a l'hégémonie, s'il peut recevoir les biens dont il a besoin, les hommes dont il a besoin, et s'il peut porter à la totalité du fief cet énorme bienfait qu'est sa loi, qu'il peut légiférer sur le fief. Donc l'ordonner à sa survie, l'ordonner à sa santé. La santé du fief, bien sûr, pas la santé du château. Donc la santé de l'ensemble. Alors, un ordre de chevalerie est à peu près la même chose. S'il s'est réduit à ces mêmes dimensions, hein, sans avoir ni projection de conquête, ni influence bénéfique sur l'extérieur, c'est un milieu assiégé, voué à la mort. Si le siège est bien fait, il peut falloir beaucoup de temps, mais le château est déjà mort, parce qu'aucun bien n'est éternel. Donc, s'ils ont accumulé beaucoup d'eau, ils vont pouvoir boire longuement beaucoup de blé, mais tous les biens temporels sont finis. Il n'y a pas de biens temporels illimités. Donc si le siège est réel, tout château tombe. Alors le château vital, c'est celui qui garde une projection de conquête dans laquelle il réunit à soi-même les biens dont il a besoin, nouvelle vocation, idée, documentation, dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire se nourrir et porter le bienfait de son influence, qui est d'ailleurs la prémisse de sa mission. Parce qu'il peut porter la loi sur son fief, c'est-à-dire il peut ordonner les forces de ses fiefs à soi. Il peut porter le blé. Autant qu'il arrive dans sa loi, arrive le blé au château, arrive le nouveau guerrier au château. Donc, chercher toujours une projection d'influence intellectuelle, morale, exemplarité sociale, de réalisation de tous les types, qui étendent le fief de notre loi, de notre hégémonie. Bien sûr, le schéma de la domination n'est pas le schéma de domination moderne, n'est pas un schéma de domination mais un schéma d'hégémonie. Donc on fédère des forces, on les écrase pas, on n'écrase pas les autonomies des autres, ou les capolariser dans une sorte de régiment d'armée moderne. C'est plutôt le modèle de l'armée féodale, qui dispose en architecture harmonieuse les autonomies qu'il respecte, qu'il aristocratise, qu'il améliore, qu'il pousse. Bien sûr, il les ordonne, et peut devoir réprimer l'usage injuste d'une autonomie. Mais en ligne de tendance, il ne veut pas démultiplier les autonomies, mais les faire survivre. Donc il respecte et il ordonne. Il organise, il dispose un corps organique, justement, des autonomies. Alors, développant l'analogie avec le château, on pourrait dire que un ordre de chevalerie est dans la société, c'est qu'un château est dans le fief. Il est le destinataire de biens, une partie de biens, l'autre nourrit le fief aussi, le destinataire de biens et l'érogateur des biens, surtout de ce bien principal, l'érogateur de sa loi, pour nous, c'est son influence. Donc, ils sont analogues d'ailleurs, soit les conditions de la bonne santé, de la vitalité d'un château ou d'un ordre de chevalerie dans un milieu, analogues sont les conditions du déclin et de mort. L'ordre est assiégé quand il n'a plus d'influence sur l'extérieur, il n'a plus de dynamisme de projection, donc il ne peut plus se nourrir. Et alors, la seule dynamique de nos vies personnelles est en jeu, mais nos vies personnelles tombent et disparaissent. Et alors, il est déjà en voie de mortalité. Il est déjà victime de sa propre vieillesse. Tandis que s'il est bien géré, s'il est bien géré, Dieu gère seulement les... C'est-à-dire, s'il est vital, parce que notre volonté s'est accordée à la volonté de Dieu, alors, comme disait Maurras, c'est comme un corps, c'est comme une nation. Or, une nation est en quelque sorte, c'est comme une substance sensiblement immortelle. Parce que chaque jour, elle enfante ce dont on a besoin. Des cœurs, des muscles, des nerfs, des cerveaux, des os. Donc c'est comme un corps sensiblement immortel. Alors, un organisme, un ordre religieux, s'il est vital, il est comme ça. Il a ses corps, il est ce corps sensiblement immortel qui peut être une nation bien gérée. Encore, à la conclusion, j'avais récapitulé un peu le tableau. En observant que si cette composition harmonieuse de force, de vérité et de beauté, qui est typique de l'ordre de chevalerie, est réalisée, avec cette assaise de la force individuelle, de la force apologétique dans tous les fronts, bien, alors on pourra dire que nous avons combattu la bonne bataille. Et quand j'avais aussi développé un petit passage sur cet élément, quand on parle de la beauté, En quelque sorte, on peut dire que la vocation chevaleresque, ayant affaire à la matière, et l'ordre de la matière, l'ordre de la société, l'ordre de la matière correspondant à sa vérité, à la vérité de la matière, et la beauté étant un transcendantal de l'être, on peut dire que le chevalier a affaire, la vocation de chevalerie, aussi avec la beauté du monde. C'est pour cela que la chrétienté du Moyen-Âge a engendré tant de beauté aussi. Pas seulement tant de vérité, mais tant de beauté. Comme s'il était appelé à réenfanter toute la beauté perdue du monde à travers ses pierres, ses couleurs, ses métaux, ses bois. Et alors on a tout c'est presque la transparence de la vérité dans la matière. Voilà. On pourrait dire que la beauté est celle-là. La transparence de la vérité dans la matière. Parce que c'est vrai, la vérité a une beauté à elle, même sans matière. Bien que ce soit difficile de penser sans image, donc sans matière à moins imaginer. Mais cette beauté historique qui est une civilisation italienne correspond à une vérité incarnée. Et c'est pour cela que la vérité est dans la réalité. Et la vérité est un transcendantal de l'être. Et la beauté est un transcendantal de l'être. On peut comprendre que c'est surtout aux grandes vocations politiques qui a été donné l'honneur de créer tant de beauté aussi dans le monde. Ce qui fait du Moyen-Âge encore un printemps de beauté inoubliable. Et c'est d'ailleurs la prémisse et l'aube de la beauté future. Bien, alors, si cette harmonie sans oublier, je dis toujours, la force, hein, sans oublier la force, alors nous avons combattu, sinon on aura été, peut-être sans notre faute, infidèle un peu à notre vocation. L'oubli de la force peut nous être imposé, on peut pas utiliser la force si on est écrasé dans une prison, ou si on est sous occupation totalitaire, on ne peut pas, donc là c'est sans notre faute. Mais si ça dépend de nous, vraiment il faut savoir que la force est notre hôtel, comme l'épée est l'hôtel du chevalier. J'avais fait cet exemple quand Saint Jean d'Arc part pour sa si courte, si belle course d'étoiles, une étoile d'héroïsme et de beauté. Et elle n'avait pas l'épée, on lui avait fait cadeau de l'armure. Je crois que c'était le capitaine de vos couleurs qui lui a fait, si je me trompe, le don de l'armure. Mais elle n'avait pas accepté l'épée. Pourquoi ? L'épée, c'est Dieu qui nous l'a donné, quelque chose comme ça. Et quand le cortège, le petit cortège, les trois ou quatre qui l'accompagnent, passe près d'une chapelle qui était à Sainte-Catherine de Fierbois, c'est ça, c'est-à-dire là est mon épée. On a creusé derrière l'autel, sur la pierre, sous la pierre, et on a trouvé une très vieille épée. Certains disent même que c'était l'épée de Charmantel. Très vieille épée, elle a été son épée, c'est une épée donnée du ciel. Et sur l'épée, il y avait les cinq croix, qui sont les cinq croix qu'on met sur la consacration de l'autel. Ce sont les cinq plaies du Christ. Rien ne se bâtit que sur le Christ, donc l'autel c'est le corps du Christ, donc il y a les cinq. Et donc l'épée est l'autel du chevalier, sur lequel il sacrifie l'ennemi et il s'offre en sacrifice. Et là, il faut vraiment son corps mortel en sacrifice, ses os, ses muscles, son sang. Alors, si tout cela est fait, alors nous avons accompli notre bataille, de nous battre en terre en tant que guerriers, pour régner au ciel, associés au royaume, parce qu'on était associés à la bataille. Dans les autres vocations, tout le monde est associé aux batailles du Christ, mais selon ses infinies vertus, selon ses différentes vertus. Alors chacun se sanctifie avec une voie d'expiation, une autre des flammes d'amour, une autre avec la prédication, une autre avec la solitude. Nous, à travers la bataille. À travers la bataille, parce que c'est une vocation, seulement les filles, voilà, il aurait pu correspondre à un devoir. Et alors, si nous réalisons, pour ce qui est de notre part, cette bonne architecture de préparation au combat, alors Dieu nous donnera les forces qui nous manquent. Parce que quand Dieu fait toujours, il est assez routinier d'ailleurs, si nous faisons tout ce qu'il nous demande, il ajoute ce qui nous manque. Donc, il nous donnera les compagnons d'armes dont nous avons besoin, et les forces dont nous avons besoin. Et il arrivera que nous-mêmes, nous serons devenus les révélateurs des vocations chevaleresques qui ne se connaissent pas encore. Parce que l'appel à une vocation, généralement, sauf des appels extraordinaires, l'appel d'une vocation se manifeste avec l'exemplarité fascinante d'une vocation parfaitement incarnée. J'avais fait l'exemple de Saint Jordan des Saxes, le successeur, je crois que c'est le premier successeur de Saint Dominique, si je me trompe, et qui était un homme plein de charisme, vraisemblablement même de charisme naturel, tous les dons, d'ailleurs. Dieu l'avait appelé justement pour ses dons à faire cette tâche. Alors, quand il passait, quand il est arrivé à Naples, on connaît les épisodes concrets, quand il passait, les mères de famille cachaient les enfants. Les envoyaient ailleurs, mais non, tu vas pas à la plage aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une fête, tes copains t'attendent. Parce que si les enfants, les jeunes, rencontraient Jordan de Saxe, ils les fascinaient, ils devenaient tous dominicains. Alors ils le cachaient. Donc si nous sommes une vocation parfaitement incarnée, nous aurons l'exemplarité qui conquiert, qui fait comme l'exemple. Mais voilà ce que je veux être. À défaut de communication directe avec le ciel, si quelqu'un est favorisé, tant mieux, ce n'est pas le cas ordinaire. Donc, ordinairement, Dieu nous capture en faisant transparaître notre vérité de la beauté d'une vocation parfaitement incarnée qui nous est faite face à nous. Et j'avais fait aussi l'exemple dans la culture ancienne, comme Achille, je crois qu'on dit Achille, Achille qui est le même que pour Jordan de Saxe, sa mère le cachait, sinon il va se faire casser la tête en guerre, ce fou. Alors, on l'a mis dans un gynécée, habillé en femme, donc rien de viril, rien de guerrier, qui se cache. Et le rusé Ulysse, qui exerce cette psychologie de la vocation parfaitement incarnée. L'objet de la vocation fascine. Et il parsème une arme, une épée, dans les étoffes féminines qu'il va montrer dans ce gynécée-là. Alors, tandis que les filles prennent les étoffes, les aisselles, il voit une épée, il se trahit. Et parce que c'est l'épée qu'il a conquis. Il a été rappelé par sa vocation de guerrier. Conquis par la fascination, la beauté de l'épée, pas la beauté physique, mais ce qu'il représente. Et le même, l'exemple que dans notre monde chevaleresque, le même l'exemple de Parsifal, qui pourtant, Parsifal n'est pas le chevalier parfait, galate, pur, vierge, vraiment presque un ange guerrier. Parsifal, c'est le pécheur repenti pour nous tous. Eh bien, Parsifal aussi avait été caché par sa femme, qui craignait qu'il s'envole parmi cette bande de fous, les chevaliers, mauvaise race. Ils vont se tuer. Et il le gardait à la campagne, à faire des travaux d'agriculture. Son père était mort, chevalier. Alors sa mère le gardait là. Mais sa vocation se révèle. Pourquoi? Parce qu'il voit cette vocation face à lui, dans un groupe de chevaliers qui passent un jour dans les forêts. Et il les rencontre. Il est tellement ébloui, il est conquis, ouvert par cela. Le cœur lui est fendu par cette vision de joie. Et qu'il s'approche, il demande... Messieurs, vous êtes des anges? Et il lui répond, non, nous sommes des chevaliers. Il l'a envoyé. Mais il arrivera au cortège du Graal, à la coupe du sang du Christ, à poser les questions significatives. Donc, c'est pour cela que, malgré le peu de force que nous avons, on ne peut pas désespérer. On ne peut pas désespérer. Dieu nous donnera ce qui nous manque. Et c'est certain que si quelques bonnes vocations se réalisent dans n'importe quel temps, il réunit les forces que Dieu lui destine. Et alors, à travers notre vocation, ils pourront voir avec des yeux nouveaux le monde passé, le monde à venir. Et ce que tout notre contemporain, dans la plupart des cas, ne contemple que comme des ruines à musée, les restes de nos châteaux, de nos chapelles sur les montagnes, sur le phare, pensez, des sables émergent, des castres romains. Qui émergent des sables, des châteaux, des légions romaines encore. Quand on voit, par exemple, dans tout l'Orient, ces immenses basiliques réduites en ruines. Oui, c'est pas ce... pour nous, ce n'est pas des objets abusés seulement. Ce n'est pas des épaves d'un monde révolu. Ce sont les premiers pas du monde qui va revenir. Donc, ce sont des reliques pour l'attente, des reliques, des prémices pour l'amour, de monde qui va revenir. Et un monde qui n'a été différent du nôtre que pour de petits accidents. Parce que l'essentiel est le même. C'est-à-dire, nous, notre vocation de chevalier aujourd'hui est la même que eurent nos aînés qui sont allés mourir aux confins de la chrétienté pour nous permettre aujourd'hui d'être encore ici à Montalegre, à parler comme ça, au lieu d'être dans les mines de plomb d'Anatole. Si nos chevaliers n'avaient pas parcouru et défendu le monde chrétien d'Europe. Alors c'est le même but. Une chrétienté qui renaît, une chrétienté qui est le cible, parce que le cible d'aventure dans le sens du voyage du cœur, pour lequel le long des siècles sont partis. Sont partis ces cœurs brûlants, parfumés, ces cœurs qui ont composé ces équipages mortels pour un toison d'or éternel.